Et bonsoir à tous, alors à nouveau, on continue donc ce parcours qui est sur la charité fraternelle. En fait, on regarde les béatitudes comme les différentes dimensions de la charité fraternelle. On a vu les cœurs pauvres, pour être accueillant aux autres, il faut être pauvre de soi. Et donc, vous vous souvenez, le tsimtsum, Dieu se contracte en lui-même pour faire de la place à l'autre, au monde. Eh bien, quelque chose comme ça, quelque chose du tsimtsum qui joue dans la charité fraternelle. J'essaye de faire de la place à l'autre, l'hospitalité notamment. Après, on a vu la béatitude de ceux qui pleurent. Je pleure avec ceux qui pleurent. Contrairement à celui qui a les yeux secs et le cœur dur, on peut avoir de l'empathie, de la compassion, et c'est une autre forme de charité fraternelle. Après, on a vu la douceur. Alors là, ça va de soi, comme on a besoin de douceur. On est très violents les uns avec les autres. Soit on est en fait absent, indifférent, soit on est violent. Et donc, c'est très difficile en fait d'être dans la juste position où je suis vraiment présent, mais sans étouffer l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la douceur. Et puis après, on a regardé la miséricorde et la justice qui s'équilibrent. Pas de miséricorde sans justice, pas de justice sans miséricorde. S'il y a justice sans miséricorde, ça va être duralex et lex, ça va être intransigeant, et finalement, comme disent les anciens, sumum ius, sumum ignoria. Le sommet de la justice, c'est le sommet de l'injustice. Et donc, il faut que la justice soit contrebalancée par la miséricorde. Mais s'il n'y a que de la miséricorde sans justice, ça devient là encore une injustice pour certains. On va faire miséricorde à tout le monde, et s'il n'y a jamais d'exercice de la sanction, par exemple, eh bien, ça va être un grand manque de miséricorde pour ceux qui sont victimes de telle ou telle injustice. Donc, on a tout ça déjà. On va ajouter ce soir une nouvelle dimension, celle de la pureté. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il faudrait peut-être inverser d'ailleurs. Bienheureux ceux qui voient Dieu, ils auront le cœur pur. En fait, si on voit Dieu dans ses frères et sœurs, eh ben on va être pur par rapport à ses frères et sœurs. Et donc la pureté de cœur, on va le voir ce soir, est une dimension essentielle de la charité fraternelle. Mais il faut bien remarquer que cette notion, elle est ambiguë. La pureté, elle est souvent mal comprise. Et elle est tellement mal comprise, tellement caricaturée, qu'elle nous est devenue, on la suspecte de ne pas être une notion tout à fait bonne. D'abord, au point de vue religieux, le pur et l'impur, le sacré et le profane, est une dimension très importante, mais qui a donné bien des caricatures. Au temps de Jésus, les Juifs avaient de nombreux rites de purification. Les rabbins se lavaient les mains, et il y avait tout un tas de discussions pour savoir quel récipient devait être utilisé pour tel rituel, quel type d'eau convenait. Qui devait la verser, quelle surface des mains devait être couverte par l'eau, combien de fois, etc. Et à ce moment-là, on sent que le rituel de purification devient presque ridicule, tellement ça devient tatillon. Et on a l'impression que la pureté, on n'en finit pas de chercher la petite bête, et que alors c'est jamais assez pur, en fait. Et donc, on a l'impression que la pureté, elle peut devenir névrotique. Et notamment au point de vue sexuel, puisque depuis le 19e siècle, on a ramené souvent la pureté à la sexualité. On va dire « j'ai fait un péché d'impureté », ce qui est une drôle de manière de parler du manque de chasteté. Donc on a réduit la pureté à la question de la sexualité. Et du coup, on ne comprend plus rien. Alors il faut essayer ce soir de bien comprendre, quand Jésus nous dit « bienheureux les cœurs purs », de quoi s'agit-il ? Parce qu'il y a une certaine pureté qui est vaine, qui ça ne sert à rien de la chercher, et elle peut être même dangereuse. Vaine parce que certains disent que la pureté, elle est inaccessible. Le livre de Coëlette dit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade ». Donc l'homme est mélangé, on est esprit et corps, on est raison et passion, on ne sera jamais pur comme Dieu est pur. On est par nature ambivalent. Donc, même si vous dites, si vous pensez, vous dites « je suis pur », à partir du moment où vous le dites, vous ne l'êtes déjà plus. Comme celui qui dirait « je crois que je suis humble ». C'est foutu, tu ne l'es pas. C'est un truc, plus tu le cherches, moins tu le trouves, on a l'impression. Donc certains disent, bon, c'est pas, y a pas une quête pour la pureté. Et puis certains disent, mais c'est nocif en fait, cette notion de pureté, elle est dangereuse. Pensez aux purifications ethniques, la race pure. J'ai trouvé un beau texte d'un philosophe français, André Comte-Sponville, dans son dictionnaire, où il parle justement de pureté. Il a ce beau texte, assez poétique. Il dit, il y a un lac radioactif au nord de l'Oural, stérilisé par des déchets nucléaires. Les eaux y sont d'un bleu très pur, et pourtant sans vie aucune. Mais ce pourtant est de trop. La propreté et la mort vont ensemble. Car toute vie est impure. Stériliser, c'est tuer. Cela en dit long sur la vie. On peut méditer sur ce lac de l'Oural, limpide et mort, comme un rêve d'ingénieur ou de tyran. Plusieurs rêvent d'une France propre, stérile et pure, comme un lac atomique. D'ailleurs artificiel comme lui, et comme lui promise à la mort immaculée. Puissent-ils songer de temps en temps au petit lac de l'Oural, d'un bleu si pur et si transparent. Oui, l'idée, c'est que la recherche de pureté, elle stérilise. Elle fait mourir, en fait, elle ne donne pas la vie. Donc là, on est sur des caricatures de la pureté, et pour en sortir, il faut vraiment regarder les mots et ce que représentent les mots dans le langage de Jésus. Le mot « pur », pour nous, ça veut dire « propre ». On va parler d'une eau claire, une eau pure, un métal sans mélange, on va dire un métal pur. Certains parlent d'une héroïne pure, elle n'a pas été coupée. Donc pur, c'est sans tache, c'est sans mélange. Pas ici, hein, y a pas de... Non, je parlais pour des gens qui peut-être... Dans la pureté, vous voyez, c'est pas seulement en fait l'absence de mélange, l'absence de saleté. Quand on parle d'une eau pure, en fait, ou d'un air pur, ça évoque quelque chose qui est bon pour la santé. Un air pur, c'est pas seulement que c'est un air propre, c'est un air qui est bon pour la santé, ça va me revivifier. Et donc là, on réintègre la notion de vie dans la pureté, contrairement à ce que disait André Comte-Sponville. Une eau pure désaltère, elle est bonne pour la santé précisément parce qu'elle est pure. Un air pur, un air frais, nous permet de bien respirer. Donc en fait, la vraie pureté, elle donne la vie, elle n'est pas contraire à la vie. Et c'est ce qui apparaît plus encore clairement dans le langage de Jésus quand il dit « les purs de cœur ». Bienheureux les cœurs purs, en fait en grec c'est « kataroi te kardia », donc c'est les purs de cœur. Un peu comme on a dit les pauvres d'esprit, les pauvres en esprit, là on a les purs de cœur. Donc Jésus rajoute un complément, c'est pas seulement être pur, mais c'est être pur de cœur, ce qui veut dire qu'il intériorise la pureté. Aujourd'hui, on disait, on avait un évangile qui disait « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et on se dit « Mais c'est un peu bizarre quand même, parce qu'il y a plein de choses que Jésus semble avoir abolies quand même. » Les Juifs avaient 613 préceptes. Dans la Torah, vous avez 613 préceptes. On n'a plus ça. Pensez à la circoncision. Premier concile de Jérusalem, ça a été bien pour abolir la circoncision. Pourquoi Jésus dit alors qu'il n'est pas venu abolir ? Parce qu'il est venu, en fait, accomplir au sens où les 613 préceptes n'ont pas disparu, mais ils ont été intériorisés. Par exemple, la circoncision, saint Paul dit, c'est votre cœur qu'il faut circoncire. Donc, on est passé de la chair au cœur. Jésus a tout ramené au cœur, et c'est en ce sens qu'il a accompli la loi. Il l'a intériorisé, il l'a rendu lié à l'amour, en fait. Et donc, la pureté, elle va se situer au niveau du cœur. Elle va se situer, justement... Dans ce côté immaculé de la grâce qui va faire que cette pureté devient pureté aimante et non pas pureté stérile, aimante donc vivifiante, féconde. Tout ce qui est aimant est fécond. Alors saint Jean de la Croix dit « La pureté du cœur n'est rien moins que l'amour et la grâce de Dieu, car notre Seigneur appelle ceux qui sont purs bienheureux, ce qui est autant dire amoureux. » puisque la béatitude ne se donne pour autre prix que l'amour. C'est très beau ça. Bienheureux les cœurs purs, une autre manière de dire amoureux les cœurs purs. Et d'ailleurs, l'inverse de la pureté dans la Bible, c'est touma, l'impureté en hébreu, Et la racine, c'est atum, qui veut dire fermeture. Donc, le cœur qui n'est pas pur, c'est en fait le cœur fermé. Vous voyez, on est bien loin ici de simplement le côté rituel ou le côté sexuel. On est dans autre chose, on est une impureté fondamentale. Ton cœur est fermé. Il n'est plus ouvert à l'amour. Et par le fait même, il est devenu impur. Alors, on comprend maintenant le lien, vous voyez, avec la charité fraternelle. Et d'ailleurs aussi avec la chasteté, puisque évidemment il y a cet aspect dans la pureté, parce que au fond, si je suis ouvert à l'autre, eh bien à ce moment-là je vais être pur. Si je suis fermé à l'autre et que je considère l'autre comme un objet, alors évidemment je vais être impur au point de vue de la chasteté, du manque de chasteté en l'occurrence. C'est pour ça que Jésus dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est saint ou simple, pur si vous voulez, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est malade, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc effectivement, ça commence par le regard. Bienheureux ceux qui voient Dieu dans leurs frères et sœurs, alors ils seront purs à leur égard. Donc la pureté de cœur et la charité fraternelle vont ensemble. Et ça commence par le regard. Alors, dans la Bible, l'impureté a un visage. C'est le visage du lépreux. C'est pour ça que j'aimerais prendre ce passage pour illustrer la pureté de Jésus d'abord. Jésus rencontre un lépreux et à l'époque, cette maladie était incurable. Alors, on isolait les lépreux, on les chassait même et on les obligeait, quand ils arrivaient, à crier « impur, impur ». Donc, pourquoi le lépreux est impur ? Parce qu'il est mélangé entre la mort et la vie. Il est encore vivant et il se décompose comme s'il était déjà mort. Et donc c'est l'image même de l'impureté, du mélange absolu entre la vie et la mort en fait. Au Moyen-Âge encore, quand quelqu'un était déclaré lépreux, on l'emmenait dans l'église et on commençait à faire l'office du De Profundis sur lui, donc l'office des morts. On ne fait plus ça hein, aujourd'hui, vous avez... Il y a moins de lèpre, heureusement. Enfin, vous imaginez, vous avez une maladie mortelle, on dit, ouais, bon, on va commencer à chanter, hein, on va faire un petit De Profundis pour toi. Donc, ça mettait ambiance. Et là, donc, il devait se déclarer de loin impur, il devait le crier, et il devait se tenir à, je ne sais plus, 40 mètres de distance, un peu plus par grand vent, c'était précisé. S'il y a du vent, il devait être un peu plus loin. Et ce n'était pas rare de voir des rabbins leur jeter des pierres pour qu'ils s'éloignent un petit peu. Ils avaient interdiction d'entrer au temple, de marcher à Jérusalem, et la punition, s'ils essayaient de le faire, était 40 coups de fouet. Rilke a un très beau passage dans son chant des lépreux, le chant du lépreux. Il fait dire à un lépreux, « Vois, je suis quelqu'un que tout a abandonné. Personne dans la ville n'a entendu parler de moi. Je suis atteint de la lèpre, j'agite ma crécelle, et mon triste avertissement frappe les oreilles de tous ceux qui passent à proximité. Et ceux qui entendent ce bruit de bois, d'abord ne regardent même pas par là. Et ce qui se passe ici, ils ne veulent pas le savoir. De sorte que je peux marcher très longtemps sans voir fille, homme ou femme ou enfant. Je ne veux pas effrayer les animaux. » Et la solitude du lépreux. On n'imagine pas ce que ça pouvait être. Hein, l'isolement total de celui qui est déclaré impur, de celui qu'on considère comme devant être éloigné parce qu'il est impur. Alors Jésus aurait pu l'éviter. Selon la loi, il aurait dû. Il a fait l'inverse. Et selon saint Marc, c'est même son premier miracle. Premier miracle de Jésus, c'est pour guérir un impur, un lépreux. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie, et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Donc le lépreux s'approche alors qu'il n'en avait pas le droit, alors que les rabbins habituellement leur jetaient des pierres. Pourquoi il s'est approché de Jésus ? Peut-être parce qu'il a entendu Jésus, le serment sur la montagne, il a entendu Jésus parler de la miséricorde, il s'est dit « Cet homme-là, si vraiment ce qu'il dit, il le vit, alors il ne va pas me rejeter. » Il s'est senti autorisé à s'avancer, ou pas autorisé, mais attiré. Cet homme-là ne peut pas être mauvais. Alors, il est allé vers lui. Saint Luc précise qu'il est couvert de lèpre. Donc il est au dernier stade de la lèpre. Il est totalement couvert de lèpre. Donc il n'a plus rien à perdre en fait. Pour lui, c'est juste une question de vie ou de mort. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Donc Jésus est saisi de compassion devant la détresse de cet homme. Il est remué jusqu'aux entrailles, vous vous souvenez, hein, « Raramim », « splarkma » en grec, il est remué aux entrailles. Alors il étend la main, il le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Alors dans le texte grec, ce n'est pas « je le veux ». Si on regarde précisément en grec, c'est « je veux ». Il n'y a pas le pronom « le ». C'est une petite nuance, mais ça veut dire que l'accent n'est pas mis sur la chose voulue, mais sur la volonté de Jésus. Il suffit qu'il veuille, et cela est, comme au moment de la création. Hein. Dieu dit, et cela fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc toute notre vie, en fait, est suspendue au « je veux » de Jésus. C'est pour ça qu'il faut obtenir de lui un « je veux ». Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Jésus dit « je veux », et à ce moment-là, je suis purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Vous voyez, aussitôt. Jésus l'a touché, il n'avait pas le droit, bien sûr. Il a touché cet homme, il est entré en contact avec son impureté. Donc on aurait pu penser que, normalement, un contact avec un lépreux, on risque d'avoir la lèpre. Si je suis en contact avec l'impur, c'est moi qui vais devenir impur. Normalement, ce qui est souillé va contaminer ce qui est immaculé. Et Benoît XVI a cette réflexion ici. Dans la passion de Jésus, toute l'abjection du monde entre en contact avec l'immensément pur, avec l'âme de Jésus-Christ, ainsi avec le Fils de Dieu lui-même. Si habituellement une chose impure contamine par contact et souille ce qui est pur, nous avons ici le contraire. Là où le monde, avec toute son injustice et toutes les cruautés qui le souillent, entre en contact avec l'immensément pur, là, lui, le pur, se révèle en même temps le plus fort. En ce contact, la souillure du monde est réellement absorbée, annulée, transformée à travers la douleur de l'amour infini. Vous voyez, quand quelque chose entre en contact avec l'infini, ce n'est pas le fini qui est diminué, c'est la chose qui est dissoute dans l'infini. Comme Jésus est infiniment pur, notre impureté ne va jamais souiller Jésus. C'est son infinie pureté qui va nous purifier. Et alors, après le miracle, Jésus demande aux lépreux de ne rien dire. Alors ça m'étonne toujours. Je me dis, mais comment il peut demander ça? C'est sûr que l'autre, il va bondir de joie, il va raconter ça à tout le monde. Comment il peut faire autrement? Mais enfin, toujours est-il qu'il demande de rien dire, et la conséquence est grave. Comme l'autre n'obéit pas, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans les lieux déserts. Impressionnant. Il a donc pris la situation du lépreux. C'est lui maintenant qui ne peut plus entrer en ville, c'est lui maintenant qui doit se tenir dans les lieux déserts. Tout s'inverse. Jésus vient de rendre la pureté à cet homme et lui-même est considéré comme un impur. À chaque fois que Jésus fait un miracle, il prend sur lui la maladie dont il guérit l'autre. Presque toujours comme ça. Lazare sort du tombeau. Jésus le fait parce que lui-même va entrer dans le tombeau. Très souvent, vous allez voir ça. Alors, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Eh bien, si Jésus n'a pas été effrayé par le visage défiguré du lépreux, c'est parce qu'il voyait Dieu. Il voyait Dieu dans son frère. Il voyait Dieu dans le lépreux. Il voyait un homme qui est toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou disons à l'image. En fait, le péché originel nous a fait perdre la ressemblance, pas l'image. Nous sommes tous à l'image de Dieu, imago Dei. En revanche, on a un peu perdu la ressemblance. C'est comme une pièce avec une effigie dans la poussière. Il y a toujours l'effigie, mais la poussière par-dessus fait qu'on la voit moins. C'est ça la ressemblance. Ça ne ressemble plus, mais si on souffle, c'est toujours là. Eh bien, on est tous comme ça. On a tous en nous l'image de Dieu, mais malheureusement, le péché... La poussière du péché a fait que ça ressemble plus beaucoup à Dieu à force de ne pas vivre selon Dieu. On pourrait dire « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu dans leurs frères et sœurs ». C'est ça au fond, la dimension de charité fraternelle dans cette béatitude, c'est l'art de voir, de discerner Dieu dans l'âme de chacun. Et alors si je fais ça, c'est que j'ai le cœur pur. Et saint Augustin le dit bien, il dit « Ubi amor, ibi oculus ». Là où est l'amour, l'œil voit clair. Là où il y a l'amour, là il y a l'œil. « Ubi amor, ibi oculus ». L'impur, en fait, ne voit rien. Il juge, il condamne. En fait, il est aveugle. Alors que le cœur pur, il voit Dieu toujours. Il y a un missionnaire en Inde qui a trouvé un vieillard jeté dans la brousse. Il était sale, couvert de poux, abandonné pour mourir comme un chien. Et le missionnaire l'a recueilli, il l'a lavé, il l'a nourri. Et l'homme stupéfait lui a demandé « Mais pourquoi, toi, un étranger, as-tu fait cela pour moi ?» Et le missionnaire lui a répondu « Tu me rappelles mon Dieu. » C'est ça, au fond, l'art de voir, en fait, le visage de Dieu, même à travers la personne déformée, le mendiant, le pécheur. Et pourtant, je discerne toujours la présence de Dieu en lui. C'est important de comprendre ça. Vous voyez, j'aime bien ce passage des saints innocents, il est terrible. Quand Jésus est né, Hérode a voulu tuer tous les enfants du même âge, et du coup, il les a massacrés. Jésus a échappé. Eh bien, j'aime bien penser à ça, en fait, que c'est la même chose dans notre âme. L'innocence a été massacrée dans nos vies de bien des manières. Et plus on grandit, plus on est pécheur, plus on sait que l'innocence a été. Mais il y a toujours un qui a échappé. Il y a toujours quelque chose en moi qui reste innocent. Pour moi, c'est une manière d'interpréter ce massacre des saints innocents. Le démon a massacré plein de choses dans ma vie, mais l'innocent a survécu. Et donc, dans tout homme, je peux essayer de discerner cette innocence qui est toujours là, cette pureté originelle qui est toujours présente. Et c'est ça, d'avoir le regard pur. Voir le Christ dans ses frères et sœurs, voir le bien en eux aussi. Souvent, on voit le mal, on a un très bon œil pour voir le mal. Vous avez remarqué ? On voit tout de suite les défauts des gens. Extraordinaire. Lui, il est comme ça, lui, comme ça. On a retrouvé un carnet de notes de Saint Jean Berchmans, et sur une page, il avait établi la liste de ses connovices. Et en face de chaque nom, il avait marqué un qualificatif. Pierre, toujours joyeux. Paul, travailleur infatigable. Jean, doux et humble. Philippe, serviable. Émile, très studieux. Alphonse, bout en train. Jules, modèle de recueillement. Et ainsi de suite. Et c'est une belle manière de penser aux autres. Vous voyez, faites la liste des gens que vous connaissez, puis mettez un qualificatif. Normalement, c'est le défaut qui va venir d'abord. Chantal, insupportable. Thomas, vaniteux. Un tel, ceci. Donc on voit toujours les défauts. Alors on n'y peut rien, on les voit. Hein, donc, mais on n'est pas obligé d'en parler. On n'est pas obligé de les noter sur son carnet. On peut toujours s'abstenir de condamner. Et d'ailleurs, dans ses dialogues avec Jésus, sainte Catherine de Sienne reçoit cette parole de Jésus. « Si tu es en présence d'une faute ou d'un péché évident, sache extraire de l'épine la rose en les offrant devant moi par une sainte compassion. » De cette manière, tu arriveras à la pureté parfaite, parce que ton esprit ne sera jamais scandalisé. Le juge ici, ce n'est pas vous, c'est moi. Par ce moyen, tu parviendras à la perfection. Et là, on comprend bien ce qu'est la pureté ici. C'est bien de regarder le bien chez ses frères et sœurs. On n'est pas d'abord dans la pureté rituelle ou dans la pureté sexuelle ici. On est dans la qualité du regard qui voit le bien, qui tire la rose de l'épine. Et de fait, la médisance dans la Bible est comparée à la lèpre. Vous disiez que la lèpre, c'est le symbole de l'impureté. Bien, en fait, la médisance est liée à la lèpre. Je vais vous lire ce passage impressionnant dans les Nombres, au chapitre 12. « Parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. » Il disait, le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse? Ne parle-t-il pas aussi par nous? Ils sont jaloux, hein? Le Seigneur entendit. Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, « Sortez tous les trois pour aller à la tente de la rencontre. » Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Oups, ça c'est pas dans le texte. Tous deux s'avancèrent et il leur dit, « Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ?» La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La nuée s'éloigna de la tente, et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers elle, et voici qu'elle était lépreuse. Il dit alors au Moïse, « Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre. Que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse cria vers le Seigneur, « Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Mais le Seigneur dit à Moïse, « Si son père lui crachait au visage, n'aurait-elle pas honte pendant 7 jours ? Qu'elle soit donc exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réintégrée. » Myriam fut donc exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne leva pas le camp avant qu'elle ne soit réintégrée. Ensuite, le peuple partit d'Aseroth, et ils campèrent dans le désert de Paran. Oui, impressionnant, hein ? C'est-à-dire, au fond, pourquoi la lèpre comme punition de la médisance ? Parce que c'est contagieux. C'est contagieux et ça donne la mort. La tradition juive dit que la médisance peut tuer 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute et celui dont on parle. La lèpre, elle est mortelle et la lèpre, elle est contagieuse. Quand vous médisez, d'autres vont ensuite colporter ce que vous venez de dire, etc. D'où, pendant 7 jours, elle va être à l'écart. Il faut séparer, comme on sépare le lépreux, mettre à l'écart celui qui médit. Voilà ce qu'a fait en tout cas Dieu dans le livre des Nombres. Alors, on a un rapport ambigu à la pureté, je vous disais, comme on la comprend mal, d'une certaine façon, elle nous déplaît, il y a quelque chose qui nous énerve, et en même temps, on désire immensément la pureté. Il y a quelque chose de très profond en nous. Dès qu'on a le sens de la sainteté de Dieu, on se sent impur face à l'Immaculé. Quel que soit notre niveau de sainteté d'ailleurs, face à Dieu, qui est pur ? On peut avoir ce sens, c'est la belle peinture de David ici dont on va parler, qui jouant de la harpe aspire à la pureté. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rénove en mon âme un esprit ferme, lave-moi à grandes eaux de ma faute, etc. On va lire ce passage. Alors bien sûr, il peut y avoir un aspect névrotique de la pureté, il faut faire attention à cette caricature. Si vous avez besoin de vous laver les mains 60 fois par jour, ça s'appelle un toc. Ce n'est pas bienheureux les cœurs purs ou les mains pures. Si vous rêvez d'une race pure, vous êtes dangereux. Mais dès qu'on se sait pécheur, et on le dit à chaque début de messe, on l'avoue humblement les uns devant les autres, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Donc on le dit suffisamment clairement les uns en face des autres pour savoir que c'est vrai. Et à ce moment-là, on est comme le lépreux et on dit « si tu le veux, tu peux me purifier ». Alors c'est l'expérience de David. Vous savez que David, il a commis beaucoup de fautes dans sa vie. Il a été un homme violent aussi. Enfin, il y a toute une face sombre de David. Hein. Quand David est à son meilleur, c'est une préfiguration du Christ. Quand il est à son pire, c'est une préfiguration du démon, hein. Une image du démon. Quand David, pour masquer l'adultère avec la femme de son soldat, Uri, il envoie finalement Uri mourir au combat, avec d'autres d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont mourir à cause de ça, tout simplement parce qu'il veut maquiller le fait que l'enfant est de lui, c'est quand même énorme de la part d'un roi de faire tuer son soldat comme ça, simplement parce qu'il a honte. C'est terrible. Et Nathan va le voir et lui explique en fait qu'il a péché. Et à ce moment-là, David se retourne. Ça, c'est la grandeur de David. Une fois qu'il a compris, il est capable d'une teshuvah, il est capable d'un retournement total. Et c'est là que le psautier nous dit, alors David écrit le psaume 50-51, qu'on peut lire un petit peu, là, il est tellement beau, hein. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Ouais, le désir de purification ici, hein. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. J'aime beaucoup cette parole, oui, ils danseront les eaux que tu broyais. C'est quand même extraordinaire ça. Vous savez combien on a d'os? Je crois qu'on en a, ça dépend des nomenclatures, mais en gros, on a 206 os quand même. Oui, ils danseront les eaux que tu broyais. Donc il est totalement broyé, le David là. Si vous avez un bras cassé, hein, deux bras cassés, deux jambes cassées, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Si au moins tu pouvais me rendre le bras droit, quoi, que je puisse écrire. Lui, il demande, il veut danser, lui. Oui, moi, déjà, si je pouvais me remettre à marcher, hein, je ne demande pas à danser, ok, on arrête la danse, mais enfin, si déjà je pouvais, je sais pas, utiliser un peu mes bras. Et là, c'est un excessif, David, c'est là il plaît au Seigneur aussi à cause de ça. Lui, c'est pas seulement vivoter qu'il veut. Lui, il veut exploser de joie, ils vont continuer de danser. Ils danseront les eaux que tu broyais. Que j'entende les chants et la fête. Oui, il ne reste pas dans son péché de façon mortifère, oui, David. Ouvre mes lèvres et j'enseignerai aux autres à ne plus pécher. Mais tout de suite, il a quelque chose d'extrêmement enthousiaste et magnanime. Mais avec ce grand désir de pureté que je trouve bien exprimé sur cette peinture, purifie-moi avec l'hysope. Alors, il y a des choses très belles ici, hein. D'abord, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi. J'aime bien la traduction du père Bonnard qui dit « Lessive-moi de ma personne ». Pas si ça vous parle. Tout à l'heure, certains se disaient fatigués. Ça m'a rappelé le titre d'un philosophe qui a un livre qui s'appelle La fatigue d'être soi. Y a un côté comme ça, lessive-moi de ma personne. C'est fatigant d'être soi. Ou alors, Stan Rougier traduit, lave-moi grandes eaux de cette boue, purifie-moi de ma faute. Lave-moi grandes eaux, lessive-moi. Et puis plus loin, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai net. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. C'est quoi l'hysope? Là encore, c'est très intéressant. C'est la branche d'arbre qu'on utilisait pour les lépreux, précisément. Quand un lépreux allait voir le grand prêtre et qu'il était déclaré pur, il était guéri, ce qui était très rare, mais enfin, ça, manifestement, ça pouvait arriver, le grand prêtre lui disait, tu es pur maintenant, et il l'aspergeait avec de l'hysope trempé dans le sang. On va retrouver l'hysope au pied de la croix, puisque c'est une branche d'hysope qu'on va utiliser pour un soldat utilisé pour donner du vinaigre à Jésus après qu'il ait dit j'ai soif. Vous voyez, ces petites références, ces mots-clés comme ça qu'on retrouve, on dit ah ouais, tiens, l'hysope pour les lépreux, David qui dit purifie-moi avec l'hysope, l'hysope qui se retrouve au pied de la croix pour étancher la soif de Jésus. On a comme ça des tout petits détails parfois qui sont extrêmement parlants. Et donc David a vu peut-être lui-même des lépreux purifiés et qu'on aspergeait avec l'hysope. Et il anticipe, comme dans un regard de préfiguration, Apocalypse 7,14, ils ont lavé leurs robes et les ont trempées dans le sang de l'agneau. Hein, ceux qui sont au ciel, qui sont purifiés, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Désormais, on a l'hysope, l'aspersion du sang, on a ça dans le chemin de croix, hein, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ben là encore, c'est un désir d'être purifié par le sang du Christ. Alors, il y a un autre passage que j'aimerais évoquer. C'est Jean 13, la dernière scène. On va l'entendre bientôt, hein, puisqu'on s'approche progressivement. On va être à la mi-carême bientôt. Le jeudi saint, on va entendre ce récit de la dernière scène avec le lavement des pieds. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, Simon Iscariote, l'intention de le livrer, donc lui il est totalement impur, hein, puisqu'il mélange l'amitié et l'inimitié, l'hypocrite est impur en fait. Jésus, sachant que le Père a tout remis dans ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Alors ce fameux lavement des pieds. En fait, Jésus fait un geste qu'on connaissait à l'époque. Quand les invités arrivent, un serviteur lavait les pieds de ceux qui arrivaient. Parce que c'est des régions où il y a beaucoup de poussière, on est en sandales. Donc c'était un geste d'hospitalité. Sauf que Jésus décale le geste. D'abord, lui, il n'est pas le serviteur, il est le maître du repas. Donc ce n'est pas à lui de le faire. Première chose bizarre. Ensuite, on nous dit que c'est pendant le repas qu'il le fait. Ça n'a aucun sens. On lavait les pieds des gens avant le repas. On ne va pas d'un coup dire « Oups, oh, j'ai oublié de vous laver les pieds. » Et puis, on va reprendre le film en sens inverse. Et puis, en plus, il dit à Pierre « Déjà, vous êtes pur. » Donc, c'est un geste de purification. Pourquoi il leur dit « Vous êtes déjà pur ?» Donc on a manifestement ici un geste décalé, et souvent quand il y a quelque chose de décalé dans la Bible, c'est intéressant, c'est-à-dire, ah, il y a un truc là qu'il faut comprendre. Pierre comprend mal le geste, justement. Il arrive donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, qui me lave les pieds, » Jésus répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Donc il lui indique qu'il y a un mystère là, il ne peut pas comprendre encore. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répond, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. C'est énorme. Ça nous fait aimer la pureté. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Donc la pureté est une condition sine qua non de la communion avec Jésus. Il faut être lavé par Jésus pour être en communion avec lui. Simon Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Elle est toujours excessif, Pierre. Elle est toujours un peu à côté de la plaque, lui. Ce que Jésus lui dit, non, c'est les pieds, je veux laver. C'est le problème, c'est les pieds. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. Ah oui, parce que quand on sort du bain, on marche par terre, donc on a encore les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, et non pas tous, parce qu'il savait qu'il allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?» Ben non, ils ne comprennent rien en fait. Ce qu'il va essayer de leur faire comprendre, c'est justement dans ce passage, si vous le relisez calmement, vous verrez que le mot « pied » apparaît peut-être 8 fois. Et c'est bizarre quand même. Ce n'est pas l'organe le plus intéressant du corps humain, a priori les pieds. On nous parlerait du cœur de Jésus, des mains de Jésus, pourquoi pas, mais les pieds, bon... Pourquoi il va à tout prix laver les pieds? Eh bien, parce qu'il y a un symbole ici. Et je vais terminer avec ça. Mais c'est très intéressant de regarder la symbolique du corps humain. C'est le symbole de quoi, les pieds? Eh bien, on peut se référer à la mythologie grecque. On pourrait prendre le mythe d'Oedipe, puisque Oedipe, ça veut dire le pied gonflé. Mais bon, là, on va laisser à Freud l'interprétation d'Oedipe. Prenons le mythe d'Achille. Achille, un très très beau bébé. Et vous savez que le problème des Grecs, c'est qu'ils ne sont pas des dieux. Ils sont que des hommes et ils veulent toujours... Il y a toujours l'hubris. Et si on devenait comme des dieux? Or, le propre des dieux, c'est qu'ils sont immortels. Les hommes, ils sont mortels dans la mythologie grecque. Et alors, du coup, la maman d'Achille, la nymphe Thétis, veut que son fils Achille soit immortel. Alors, elle va le plonger dans les eaux du Styx, qui ont ce pouvoir de donner l'immortalité. Alors elle prend son bébé, elle le plonge dans les eaux, mais il faut bien qu'elle le tienne par quelque part. Comment elle va le plonger dans l'eau? Donc elle est obligée de le tenir par le pied. Alors elle le plonge, mais elle tient le pied hors de l'eau. Ah, et donc Achille, il va être immortel dans toute sa personne, invulnérable, sauf dans son pied. Et lors du siège de Troie, eh bien, Paris décoche une flèche, aidée par Apollon d'ailleurs, et Achille était en train de courir pour échapper à la bataille, et la flèche va dans son pied. Alors, comme il est courageux, il enlève la flèche, mais le sang commence à s'écouler, il s'écroule, il meurt. Et donc, on voit bien, le pied, c'est le symbole de la mortalité. Tu es poussière par tes pieds, et tu retourneras la poussière. Le pied, dans la poussière, nous rappelle que nous sommes liés à la poussière. La tête, c'est la suprématie. C'est un symbole opposé. C'est ce qui regarde vers le ciel. Les pieds, ça nous rappelle, en fait, qu'on est lié à cette terre, qu'on est lié à la poussière, qu'on est mortel. Et donc, quand Jésus fait le lavement des pieds, il nous guérit de la mortalité, en fait. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et donc, il anticipe ce qui se passera à la croix, le moment où il va, en fait, laver les pieds de l'humanité pour nous guérir de la mortalité. Et ça correspond bien au début de la Bible, où il était dit à la femme, au serpent, Dieu a dit « Il t'écrasera la tête, mais tu l'atteindras au talon ». Effectivement, le démon a tué Jésus. Oui, Jésus est mort. En tout cas, il a donné sa vie. Donc, d'une certaine façon, le démon a attaqué Jésus au talon. Mais en faisant ça, il a perdu. Au moment même où il attaque Jésus au talon, donc dans sa mortalité, par sa mort, nous sommes guéris. Et à ce moment-là, la tête du dragon, la tête du serpent, a été écrasée. Et voilà pourquoi Jésus veut nous purifier. Il veut nous purifier déjà de la mortalité profonde, du péché et de tout ce qui s'ensuit. Alors je termine avec ce beau texte de Madeleine Delbrel. Je vous disais que comme on a beaucoup caricaturé la pureté, elle n'est pas forcément la chose la plus aimable spontanément. Et Madeleine Delbrel dit « Vous nous avez dit, Seigneur, que sans cette implacable pureté, nous ne pourrions pas vous voir. Et depuis que nous le savons, nous nous surprenons à l'aimer, comme on aime ce qui conduit à ce qu'on aime. » Alors, petit exercice pour la semaine. Essayez de voir Dieu dans vos frères et sœurs, dans les liens forts, les liens intimes, les liens familiaux, les liens d'amitié, les liens... Et puis dans les liens plus faibles, les liens de travail, les gens que vous croisez dans la rue. Faites des petits exercices comme ça pour essayer de se dire, tiens, Dieu est présent dans cette personne. Eh bien, si vous faites ça toute cette semaine, vous vivrez bien de la béatitude des cœurs purs. Alors, bon appétit, bon dessert, bonne discussion surtout.